l'histoire. Actualité dans la fabrique de l'histoire de ce vendredi, comme tous les vendredis, actualité des manifestations d'histoire ce matin. Pour commencer, Florence Dupont, professeure émérite de littérature et de civilisation latine à Paris Diderot, nous présentera son petit précis d'histoire à l'usage des politiques et nous plongerons donc à Rome autour de la figure de Cicéron. Puis nous évoquerons la grande manifestation d'histoire qui s'est ouverte hier à Paris à l'Institut du Monde Arabe, les rendez-vous d'histoire du monde arabe qui sont coproduits par France Culture et par l'Institut du Monde Arabe. Et nous recevrons pour en parler deux des participantes, Anne-Lise Neff qui vient de publier aux éditions du Bordelot « L'islam a-t-il une histoire du fait religieux comme fait social » et Vanessa van Rettergem, qui est une grande spécialiste de l'histoire de la ville de Bagdad. Puis Catherine de Copé, dans sa chronique mensuelle « La fabrique de l'autre », nous racontera les vicissitudes d'un terme dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, le terme d'insoumis, avant qu'à la fin de cette émission, Arlette Farge ne rende hommage au grand historien de l'opinion publique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était Pierre Laborie, dont on a appris la disparition cette semaine.
Allez-y, madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous comptez les deux registres ?
François Mitterrand, est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non.
Oui, mais pour les recompter
non,
après.
On
laisse un et on met le mot. D'accord.
Ça fait 7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Et pour ce petit précis d'histoire à l'usage des politiques, nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir. Florence Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler, en tant que spécialiste de littérature et de civilisation latine, d'élections qui se passent à Rome.
Alors, comment Cicéron fut élu au consulat en 64 avant Jésus-Christ ? Chaque jour, en descendant au forum, médite ses idées. « Je suis un homme nouveau, je demande le consulat, la cité où je suis est Rome. » C'est ce qu'écrivait Quintus à son frère Marcus Cicéron en 65 avant Jésus-Christ, dans une longue lettre qui est comme un manuel du candidat. L'histoire de l'élection au consulat de Cicéron est exemplaire du fonctionnement des institutions de Rome à la fin de la République. La République romaine élit chaque année à la tête de l'État deux consuls qui assumeront conjointement les pouvoirs civils et militaires d'un président de la République d'aujourd'hui. Ils sont candidats séparément et à titre personnel. C'est le populus, c'est-à-dire l'assemblée des citoyens soldats, qui élit les magistrats supérieurs, prêteurs, consuls, censeurs. Le peuple tout entier, sous le nom de comis centuriat, est réparti en classes censitaires et unités de vote, les centuries, à l'intérieur de ces classes. À la fin de la République, il y a 5 classes et 193 centuries.
Dites donc, c'est pas si simple que ça de se plonger dans ces histoires d'élections à Rome.
La suite est encore plus compliquée. La procédure électorale, en effet, donne l'essentiel du pouvoir de décision aux plus nobles et aux plus riches, inscrits dans les premières centuries de la première classe. Chaque centurie a un nombre différent de membres. Ils sont moins nombreux pour les plus riches et plus nombreux pour les plus pauvres, alors que chaque centurie n'a qu'une voix. En outre, pour voter, il faut être présent en personne à Rome, ce qui réduit le corps électoral, car de nombreux citoyens habitent dans toute l'Italie et au-delà. On commence par tirer au sort une centurie de la première classe qui votera la première, ce qu'on appelle la centurie prérogative. Elle va orienter la suite du vote, car elle a valeur de présage. Puis les centuries votent successivement jusqu'à ce qu'on obtienne une majorité absolue. Ainsi, si les 88 premières centuries sont unanimes, il suffira de 9 centuries de la deuxième classe pour avoir la majorité de 97 Centurie.
Vous voulez dire que chaque citoyen romain comprenait ce que vous êtes en train de dire de façon naturelle, d'une certaine façon, Florence Dupont.
Absolument. C'est ce qu'obtint Cicéron en 64 avant Jésus-Christ. L'autre consul de cette année, Caius Antonius, ne fut élu que grâce aux centuries de la deuxième classe et peut-être de la troisième. Et il ne l'emporta que de quelques centuries sur le troisième candidat, Catilina. Ce système électoral permet à l'oligarchie sénatoriale de recruter à chaque fois deux des siens. C'est pourquoi une campagne électorale consiste donc seulement à activer des réseaux d'influence et multiplier les contacts personnels d'amicitia, c'est-à-dire de relations de proximité, au plus haut niveau. Comme on le voit dans la lettre de Quintus, la force de Cicéron est d'avoir défendu de nombreux citoyens influents qui lui sont attachés par le devoir de reconnaissance et aussi de faire espérer son secours à d'autres. Mais le système facilite la corruption et le crime d'ambitus, c'est-à-dire de brigue électorale, malgré de nombreuses lois pour la réprimer. C'est pourquoi faire de la politique est ruineux. Cicéron dut-il son élection à sa valeur d'avocat, une bonne campagne et sa richesse. Le vote unanime de la première classe en sa faveur montre qu'il était le candidat de la majorité de la nobilitas à un poste auquel il n'aurait jamais dû accéder. En effet, Cicéron est un simple chevalier, un homo novus, c'est-à-dire un homme dont aucun ancêtre n'a exercé de magistrature en dehors de leur petite ville d'Arpinum. Il n'aurait jamais dû dépasser la fonction de préteur et briser ainsi ce qu'on appelle aujourd'hui le plafond de verre. L'historien Salluste rapporte que la noblesse s'y résigna. Jusqu'alors, en effet, la majorité de la noblesse le détestait violemment et estimait que ce serait, pour ainsi dire, souiller le consulat que d'y laisser arriver un homme nouveau, tout remarquable qu'il fût. Mais la menace du danger fit reculer la haine et l'orgueil. En effet, les nobles l'ont fait élire contre Catilina, le troisième candidat, afin qu'il les en débarrasse. Sergius Catilina, ancien officier du dictateur Sylla, appartient à la plus ancienne noblesse romaine. Mis plusieurs fois en accusation pour divers crimes, dont la brigue électorale, la concussion comme gouverneur d'Afrique et le viol d'une vestale, il a été à chaque fois acquitté grâce à ses nombreux soutiens. Ruiné comme d'autres jeunes nobles, il les a rassemblés dans une première conjuration qui a échoué. Ils en préparent une autre, ils prévoient d'assassiner les consuls, une partie du Sénat et incendier Rome pour prendre le pouvoir, obtenir la suspension des dettes et s'enrichir par des proscriptions.
Pas mal.
C'est un beau projet. Alors, Cicéron, une fois élu, n'est pas entravé par les liens familiaux et les devoirs sociaux qu'aurait eu un noble. Le Sénat lui vote des pouvoirs exceptionnels. Cicéron brise la conjuration, n'hésitant pas à faire étrangler le 5 décembre 63 avant Jésus-Christ, 5 des principaux conjurés dans la prison du Tullianum, dont Lentulus, l'un des prêteurs de l'année et un des plus nobles sénateurs romains. Il est ovationné par le peuple. Mais les nobles ne lui pardonneront jamais d'avoir mis à mort sans jugement des citoyens romains du plus haut rang. Menacé de poursuites en 58 avant Jésus-Christ, il doit s'exiler. Et même si le Sénat le rappelle un an après, sa carrière est finie.
Merci beaucoup donc Florence Dupont de nous avoir décrit cette élection au consulat de Cicéron. Il n'est d'histoire que contemporaine, on le sait. Effectivement, vous évoquez cet homme nouveau qui casse les codes. Je ne sais si ça a un rapport avec la politique contemporaine. En tout cas, on peut réécouter votre émission, votre chronique sur le site de la Fabrique de l'Histoire, donc en allant sur le site de France Culture, franceculture.fr. Bonjour Vanessa Van Rydergem.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour Anne-Lise Neff.
Bonjour Anne-Lise.
Vous êtes toutes les deux ici pour parler de ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui se sont ouvertes hier, ces rencontres donc, autour du thème des frontières, et vous y interviendrez l'une et l'autre pendant tout le week-end. Il faut savoir qu'effectivement, cette manifestation comporte des dizaines et des dizaines de tables rondes, de discussions, de spectacles, de rencontres, et que France Culture en est le coproducteur, puisque ce soir, en direct, l'émission d'Arnaud Laporte entre 20h et 22h, et demain, en direct, l'émission de François Angelier s'y tiendront, donc dans cet institut du monde arabe. Alors, nous avons invité parce que vous évoquez, en particulier, vous, Anne-Lise Neff, dans un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions du Bord de l'eau, la question de l'enseignement de l'histoire de l'islam dans nos classes. Et nous avons fait toute la semaine, nos auditeurs s'en souviennent, donc une série d'émissions consacrées à la préparation du bac. En l'occurrence, vous posez dans « L'islam a-t-il encore une histoire ? A-t-il une histoire du fait religieux comme fait social ?» la question de la façon dont on parle aujourd'hui dans les classes de l'islam, dont sont conçus les programmes. Vous rentrez dans la fabrique des programmes scolaires, mais aussi dans la fabrique des programmes d'enseignement pour ceux qui vont devenir les futurs professeurs, à savoir les programmes du CAPES et de l'agrégation. Et vous vous interrogez sur la longue durée, sur la façon dont on a parlé depuis maintenant presque un siècle de ces questions de culture, d'islam et de cette différence qu'il peut y avoir entre l'islam avec un I majuscule et l'islam avec un I minuscule, Anne-Lise Neff.
Oui, alors vous verrez d'ailleurs qu'il y a immédiatement un lien avec le programme des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, puisque c'est une question qui revient cette année dans plusieurs tables rondes.
Absolument.
À la fois sur l'islam contemporain, sur la vulgarisation.
Comment vulgariser l'histoire du monde arabe ? C'est un atelier qui se tiendra demain de 10h à 11h30, et il y aura aussi un atelier autour de la question des enseignements justement de l'histoire du monde arabe.
Tout à fait, et il y a toute une partie donc de cette manifestation qui est, disons, destinée aux enseignants ou aux futurs enseignants, un petit peu comme les rendez-vous de l'histoire de Blois. Donc, c'est effectivement une question cruciale aujourd'hui, importante. Alors, pourquoi ? Parce que on peut considérer que les programmes scolaires sont comme une sorte, plus largement, comme une sorte de précipité.
De miroir.
Le miroir, mais aussi la base, en fait, d'un savoir commun, partagé, dans une société comme la société française, parce que je précise que ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, où nous avons des programmes nationaux. Mmh. Et ça explique aussi les débats autour de ces programmes, et notamment, parfois, des débats houleux autour de la place de l'islam et de la manière dont on l'enseigne.
On l'a vu l'année dernière, ou il y a deux ans, à propos de la rénovation relativement inachevé des programmes d'histoire en particulier.
Oui, il y a même eu encore cette année des critiques assez dures contre les nouveaux programmes qui existent depuis 2016, notamment de la part de Barbara Lefebvre. Alors donc, ça prouve bien qu'il y a là un véritable enjeu, et il me semblait qu'il était important donc de se pencher sur cette question, d'abord pour montrer que ces programmes, dans l'ensemble, en substance, n'ont pas tellement évolué. Donc il n'y a pas de quoi tellement s'énerver. Et que d'autre part, s'ils ont évolué, c'est tout récemment, donc depuis 2016, pour prendre en compte en fait de nouvelles manières d'approcher la question, plus scientifique, probablement, enfin sûrement. Et en particulier donc de faire toute sa place à une approche qui ne soit pas strictement, ou en tous les cas, pas essentiellement marquée par le religieux. En effet, jusqu'ici, ce qui était au programme, au moins depuis 1957, pour l'islam médiéval, puisque c'est ce dont je suis spécialiste, ce sont ce qu'on appelle les origines de l'islam, avec une véritable obsession autour de ces origines. Alors, je précise immédiatement que cette obsession n'est pas propre à l'islam. On la retrouve.
Les origines du christianisme, les origines du judaïsme aussi, par exemple.
On pourrait dire les origines de la France,
les origines de l'humanité.
Enfin, voilà, on est toujours un peu obsédé par les origines, comme
c'est
si
le démon des origines.
Cela révélait quelque chose, en fait, de ce que seraient devenues les entités dont on parle jusqu'à aujourd'hui, et comme s'il n'y avait donc pas de discontinuité. Or, précisément, il me semble que si l'histoire du Moyen-Âge, et en particulier de l'islam, a un intérêt, c'est de montrer que cela n'a rien à voir avec le présent, et donc de permettre une réflexivité et de sortir d'a priori au sujet de l'islam.
Alors, vous insistez d'ailleurs sur ce point en disant qu'il est paradoxal d'adopter une vision intemporelle de l'islam, rabattue sur l'islam comme religion, dites-vous, alors que c'est l'image que justement veulent donner les fondamentalistes que l'on tente de combattre par cette question-là. C'est-à-dire, en gros, vous dites les fondamentalistes veulent revenir aux fondements, aux origines, justement, en disant que c'est là où est la pureté de la religion. Et en fait, on donne l'impression dans ces programmes, dites-vous, Annelise Neff, de toujours, effectivement, vouloir revenir justement à ces questions des origines, à une sorte de vision intemporelle de l'islam.
Tout à fait, mais de fait, le problème, c'est que ce faisant, donc on renvoie à ce que tout enseignant du secondaire connaît, c'est-à-dire le Coran, la mosquée, les cinq piliers de l'islam, etc., autant d'éléments qui sont en fait des constructions qui adviennent sur le long terme. Et non pas dans les tout premiers temps de ce que l'on appelle le monde de l'islam.
Vanessa van der Tergem, sur ce point.
Oui, il faut aussi rajouter que les premières décennies de l'islam sont une période qui sont très difficiles à connaître historiquement, puisqu'on a très très peu de sources qui soient directement contemporaines de cette période-là, ou en tout cas très très peu de sources internes. Donc on est tributaire dans notre vision d'aujourd'hui de sources qui sont essentiellement des sources de la tradition musulmane, qui ont été élaborées, disons, entre un siècle et demi, deux siècles, voire plus après les faits. Et voilà, et donc ça nous incite à prendre, bien sûr, tout le recul et toutes les précautions nécessaires pour parler de cette période. Or, se focaliser sur la période du prophète, les, disons, 20-30 premières années de l'islam, c'est faire un écho à cette vision, on va dire, traditionnaliste, sans forcément en questionner l'écriture et les enjeux à l'époque où elle est écrite.
Oui, c'est pour cela que vous dites, Annelise, dans votre livre sur l'islam, a-t-il une histoire aux éditions du Bordelot, qu'il faut concevoir le fait religieux comme un fait social. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là et en quoi, justement, en le concevant ainsi, en disant que c'est un fait social, on peut changer le regard que l'on porte justement sur cet islam médiéval dont vous êtes la spécialiste?
Alors, il faudrait d'abord partir de l'idée qui est souvent oubliée que le religieux n'est qu'une des modalités de rapport au transcendant dans les sociétés. Hein, ce qu'ont très bien montré les antiquisants, qu'au fond c'est une invention qui naît avec le christianisme et même relativement tardivement. Et donc, précisément, faire toute sa place au fait que l'islam ne va pas de soi, disons, comme religion. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de dire que toute religion, on vient de le dire, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, dogme, croyance, etc., etc., a une histoire, une historicité, et le produit donc d'un monde social qui évolue dans le temps.
Donc dans le temps et dans l'espace, parce qu'effectivement, si on parle d'un islam ou d'une société médiévale musulmane, je ne sais pas, du côté de Cordoue, du côté de Bagdad ou d'autres endroits, ça n'est pas exactement la même chose, même si temporellement, ça se passe en même temps.
Dans le temps et dans l'espace, en effet, il y a des références, des éléments communs, cela va de soi, mais il y a aussi effectivement des distinctions qui renvoient au passé de ces différentes régions. Alors, dire que c'est un fait social, ça veut dire aussi que du coup, la définition et les premiers temps du monde de l'islam ne peuvent pas être définis de manière religieuse. Donc il faut trouver une manière de le définir autrement. Il me semble que, et c'est tout l'intérêt des nouveaux programmes qui ont été élaborés en 2016, l'envisager comme un empire et l'islam comme religion, comme naissant au sein de cet empire, comme étant le produit de cet empire nouveau, est nettement plus intéressant pour les enseignants et pour les historiens.
C'est pour ça que, en particulier pour ceux qui préparent les concours d'enseignement, le thème, c'est gouverner justement en islam, donc entre le 10e et le 15e siècle. C'est cela, Vanessa van der Tergem?
Oui, absolument. C'est une question qui est au programme pour la troisième année consécutive en histoire médiévale et qui, bon, à la fois est très dense et absolument énorme, hein, 6 siècles d'histoire sur une zone géographique très large de l'Irak à la péninsule ibérique, mais qui a justement pour intérêt de faire percevoir la diversité des modes de gouvernement, puisque c'est le sujet gouverné, mais aussi la diversité des rapports, des façons d'articuler le politique, le religieux, pour garder des grandes catégories qu'on peut discuter en elles-mêmes. Hein. L'adaptation dans des sociétés locales différentes de quelque chose qui n'est absolument pas un donné. Voilà, ce qu'on, disons, ce qu'il faut continuer à combattre résolument, que ce soit au sein des programmes d'histoire du secondaire ou ailleurs, c'est vraiment l'essentialisme. Hein. Rien n'est évident. Les choses ne sont pas ainsi parce que l'islam est de façon essentielle comme ci ou comme ça.
Mais on va vous répondre et j'imagine que c'est une réponse de tous ceux qui pratiquent l'enseignement, en particulier secondaire. On est un peu obligé de, disons, essentialiser, sinon de le faire de façon très, très marquante. Mais en tout cas, puisque nous avons peu d'heures, puisque nous avons peu de temps à consacrer à cette question-là, il faut bien qu'on dise les villes, vous êtes spécialiste de Bagdad, il faut bien qu'on dise le Coran, les cinq piliers de l'islam, il faut bien qu'on dise, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va y arriver pour faire comprendre à des jeunes élèves comment on peut raconter cette histoire-là, non?
Oui, mais allez-y, peut-être que, par exemple, montrer que les cinq piliers, même en le disant rapidement, mais que les cinq piliers, c'est une construction, ce n'est pas un donné qui tombe du ciel, ni le Coran lui-même, d'ailleurs. Le Coran est un texte qui est réarrangé sous une forme qui devient officielle sous le califat du troisième calife et pas à l'époque du prophète. Donc voilà, toutes ces données-là ont une histoire, sont le produit d'évolution et déjà montrer cela, ça permet de sortir d'un premier essentialisme.
Oui, Anne-Lise Neff.
Et bien entendu, hein, ceci peut s'étendre à tout objet historique. Ça n'est pas propre à l'islam, inutile d'y insister. Il me semble que malgré tout, la question que vous posez est importante parce que, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il s'agit aussi de proposer une autre manière de faire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire laissons tomber l'essence de l'islam, ne parlons pas du Coran ou que sais-je, mais bien de dire comment on peut parler autrement de l'islam. Et il me semble que les programmes de 2016, comme ça au moins je renvoie précisément ce à quoi seront confrontés les enseignants du second degré, en mettant en avant la notion d'empire...
C'est les programmes de cinquième, il faut préciser.
Absolument. Dans le programme de cinquième et en mettant en parallèle, en quelque sorte, et en contact les empires chrétiens et l'empire de l'islam, mettent en avant, en fait, à la fois la construction politique, une construction politique qui existe déjà auparavant, mais aussi l'importance du gouvernement. Et peut-être que finalement, ce qui fait la totalité d'un monde social, c'est plus les débats sur le gouvernement que les débats sur le religieux, puisque à l'intérieur de chacun de ces empires, la pluralité religieuse est très grande, et à l'intérieur de l'islam aussi.
Vanessa van der Tergem, sur ce point. Cette variété qu'il faut donc tenter de faire passer auprès des jeunes élèves, variété des situations, variété des périodes.
Oui, tout à fait. Je pense aussi à un point assez concret dont je sais qu'il est très sensible et très important pour les enseignements du second degré, qui est la question, par exemple, des représentations du prophète, hein, qui cristallise beaucoup de choses, puisque depuis Charlie Hebdo et les premières affaires des caricatures, bien sûr, voilà. Donc, c'est assez facile de montrer au niveau historique, y compris de le montrer avec des images, qu'il existe aujourd'hui une interdiction de la représentation figurée du prophète en islam sunnite, pas en islam chiite, donc déjà on nuance un petit peu.
Et que ça n'a pas toujours été le cas,
voilà,
en islam sunnite.
Voilà, et de montrer qu'en islam sunnite, il existait des représentations à l'époque médiévale, on en a au XIIIe siècle, au XIVe siècle, on en a à peu près régulièrement jusqu'au moins au XVIe siècle, et puis petit à petit, on les évite, des juristes les interdisent, là on peut aussi un petit peu parler de la dialectique qu'il y a entre le droit, l'interdiction religieuse, théorique, et puis la pratique sociale ou artistique. On peut aussi nuancer sur la question de à qui s'adresser ces images, peut-être pas à un très vaste public populaire, mais à des souverains, à des mécènes qui avaient les moyens de commanditer des ouvrages très coûteux. Et c'était des ouvrages qui restaient dans des bibliothèques privées qui n'étaient pas forcément divulgués à tout le monde. Mais voilà, ça c'est un point concret sur lequel on peut travailler pour montrer l'évolutivité, on va dire, qui n'est donc pas une essence.
Anne-Lise Neff, sur ce point.
Alors, toujours sur la diversité, hein, on peut insister sur le fait que non seulement il y a des courants divers en islam, ça tout le monde le sait, mais que les récits même que fait la tradition musulmane des origines de l'islam, puisque cette tradition, elle, pense les choses en termes de tradition et d'origine, mettent en avant en fait des débats et des conflits extrêmement tôt, extrêmement précoce, qui ne sont pas effacés, hein, qui sont montrés au jour comme faisant partie précisément de la construction de ce monde de l'islam. Donc il apparaît un peu étonnant que l'enseignement précisément les gomme. Diversité donc interne, diversité interne au sunnisme, évolution également de ce sunnisme, mais aussi, et on l'oublie trop, sauf pour insister sur le statut des immis, pluralité de religions au sens où on l'entendait aujourd'hui, c'est-à-dire christianisme, judaïsme, islam, jusqu'à une période relativement tardive. Or, ceci ne peut pas ne pas avoir une influence sur la manière de concevoir le monde social, puisque ça veut dire que le calife est à la tête d'un monde social, d'une société qui est extrêmement variée et pas uniquement musulmane.
Alors, on voit bien qu'il y a des difficultés par rapport aux idées reçues, pourrait-on dire, Annelise Neff et Vanessa Van Rettergem. C'est-à-dire que les idées reçues confondent l'islam avec un grand I et l'islam avec un petit I. Les idées reçues parlent d'un conflit ou de relations complexes entre Orient et Occident. Or, il y a des Orients musulmans et des Orients non musulmans, il y a des Occidents musulmans et des Occidents non musulmans. Alors, on voit bien que la tentative que fait Annelise Neff et dont vous faites partie d'une certaine façon, vous aussi Vanessa Van Rettergem, en travaillant sur ces questions des grandes villes en terre d'islam, cette tentative, c'est une tentative de déconstruction d'idées reçues. La vraie question, c'est comment on reconstruit d'une certaine façon, parce qu'une fois qu'on a démonté le Lego et que le château fort est par terre, eh bien, il va falloir le reconstruire d'une façon ou d'une autre. Faut-il le reconstruire? Je ne sais pas. Il faut trouver, par rapport à des gens qui ne connaissent rien ou peu de choses autour de ces questions-là, les mots qui vont permettre d'être le plus proche de ce que la recherche que vous menez l'une et l'autre dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Vanessa Van Rettergem?
Oui, je pense que la première entreprise, c'est une entreprise très générale de décentrement. C'est-à-dire qu'on est quand même à une époque aujourd'hui où on ouvre l'histoire à des horizons mondiaux. On parle beaucoup d'histoire mondiale, d'histoire connectée, d'histoire globale, etc. Mais il suffit pas de replacer, disons... Enfin, c'est déjà une première étape de replacer, par exemple, l'histoire de la France ou l'histoire de l'Europe dans une histoire plus globale. Mais il faut accepter aussi de décentrer un peu son point de vue et d'aller voir ce qui se dit dans les autres historiographies qu'on appelle parfois non-européennes. Moi, ça me plaît pas comme terme parce que, bon, c'est encore européocentré, on va dire. Voilà, donc c'est l'entreprise de beaucoup d'historiens en France et ailleurs aujourd'hui que de se plonger directement dans les sources de sociétés situées ailleurs qu'en Europe par le biais des langues pratiquées par ces sociétés et de construire une histoire qui ne soit pas uniquement centrée sur les rapports que ces sociétés entretiennent avec notre pays, par exemple.
Et sur ce point, justement, parce que c'est une des choses que vous pointez du doigt dans votre livre « L'islam est une histoire », Annelise Neff, vous dites qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'on projette rétrospectivement le cadre national ou le cadre européen sur l'histoire la plus ancienne, et en même temps, on se rend bien compte que de toute façon, on a la conscience toujours plus claire que les grands mouvements de l'histoire ne peuvent être compris sans abandonner justement cette perspective nationale qu'on tente de plaquer sur le passé. Donc une contradiction qui est à l'œuvre sur, par exemple, cette question de l'islam médiéval sur laquelle vous travaillez.
Absolument, et qui mérite d'être dépassé de manière différente. Alors, décentrer le regard, certes, mettre en avant des connexions, certainement. Je dirais d'une manière générale, déspécifier. Et c'est ce dont, plus que de déconstruction, je dirais presque, que l'islam a besoin de déspécification.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, en fait, de l'utilisation de termes, de problématiques, d'approches qui puissent être appliquées à des objets différents et qui puissent donc permettre à la fois de souligner ce qui peut-être est particulier à l'islam, mais aussi ce qui le rapproche d'autres mondes sociaux, contemporains ou... distant dans le temps.
Oui, alors, je posais la question tout à l'heure à Vanessa Van Rettergem, mais vous la posez dans votre livre, Annelise Neff. Voilà, ça n'est pas satisfaisant de parler d'Orient et d'Occident, vous dites. Mais, de quoi faut-il parler? Parce que quand on est face à une classe, il faut bien essayer d'expliquer quelque chose face à ceux qui sont en face de vous. Effectivement, ces catégories ne sont pas les bonnes, dites-vous. Il faudrait trouver d'autres catégories. Il faudrait s'atteler à les trouver, à les comprendre, à les inventer, ces catégories, Annelise Neff.
Alors, À mon avis, il faut opérer deux démarches de ce point de vue. D'une part, une opération de réflexivité sur nos propres catégories, c'est-à-dire ce que nous mettons dans Orient, Occident, et ça, je pense qu'on peut en discuter assez tranquillement avec les élèves, mais aussi sur la construction de ces catégories dans le temps. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, les catégories d'Orient et d'Occident, au Moyen-Âge, honnêtement, ça n'a pas grand sens, ni grande réalité. C'est-à-dire qu'on les trouve pas dans les textes, ou très peu, ou avec des sens qui ne sont pas ceux que l'on pense. Et cette distance, cette réflexivité, cette manière de se pencher sur le passé pour essayer de penser autrement les choses aujourd'hui, ne nous donnera peut-être pas un autre terme, mais nous permettra au moins de ne pas parler de manière... comment dire, banale et permanente, d'affrontements entre Orient et Occident, par exemple.
Vanessa Van Rettergem, ce travail, c'est le travail de votre génération, d'historienne et d'historien, non ? Je pense qu'il y a tout un travail qui correspond à une génération d'historiennes et d'historiens de ce monde arabo-musulman. D'ailleurs, est-ce qu'il faut parler de monde arabo-musulman ? Je ne sais plus ce qu'il faut que je dise maintenant.
Ça va, vous pouvez y aller.
C'est bon, je peux encore dire ça.
Oui, enfin, je pense qu'on s'inscrit aussi dans la continuité, dans une tradition de recherche française, puisqu'on a été formés en France. Mais effectivement, notre génération d'historiens met beaucoup l'accent sur le travail dans les textes arabes, le contact permanent avec les sources. Alors, arabes ou non arabes, pour ceux qui travaillent sur des sociétés où il existe aussi, par exemple, des sources latines quand on travaille sur la péninsule ibérique, ou des sources juives en hébreu, etc. etc. Hein, c'est pas restrictif.
Et vous allez intervenir dans un instant, puisque c'est à 12h, et de 12h à 13h, lors de ces rendez-vous d'histoire du monde arabe, pour parler de Bagdad au Moyen-Âge, une capitale cosmopolite. C'est votre travail, puisque vous avez travaillé sur les élites bagdadiennes au temps des Seljoukides, et vous étiez déjà venu nous en parler à la Fabrique de l'Histoire il y a quelques temps, et vous avez obtenu le grand prix des rendez-vous de l'histoire du monde arabe de l'année dernière pour cet ouvrage. C'est une façon, là aussi, on parlait d'histoire urbaine, d'élite urbaine, etc. C'est une façon d'aborder différemment cette question de l'histoire du monde arabo-musulman.
Disons, c'est une façon que j'espère un petit peu interne de se placer vraiment au niveau de la société bagdadienne, puisque les sources sur lesquelles je travaille sont produites par des Bagdadiens essentiellement, et donc en lisant leurs textes, j'essaye de comprendre leur regard sur la société qui leur était contemporaine, pour moi porter mon regard d'historienne, bien sûr, a posteriori sur cette société.
C'est donc de 12h à 13h, donc au rendez-vous d'Histoire du Monde arabe à l'Institut du Monde arabe à Paris. Vous interviendrez pour parler et présenter votre livre, justement, L'Islam a-t-il une histoire ? Anne-Lise Neuf, c'est demain, c'est ça ?
Demain à 13h30.
Oui. Et puis on peut dire qu'à 12h30, ça fait concurrence à votre conférence, en l'occurrence Vanessa Van Rettergem. Il y aura donc là aussi à l'Institut du Monde arabe, Enseigner les mondes musulmans, présentation des actes du forum tenu à Lyon en novembre dernier autour justement de cette question de l'enseignement. Et puis qu'il y aura, donc ça c'est demain samedi, comment vulgariser l'histoire du monde arabe et du Moyen-Orient avec Philippe Petria, Sylvia Chifolo, Leïla Dakli, Vincent Lemire et Florian Louis, qui ont donc eux aussi rédigé chacun des manuels consacrés justement au programme des concours d'enseignement, c'est ça ?
Oui, pour la question contemporaine.
Le Moyen-Orient depuis la fin du 19e
jusqu'en 1973.
En 1973. Donc, merci à toutes les deux d'être venues pour parler de ce programme des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, dont France Culture est coproducteur, qui s'intitule Frontières et qui dure jusqu'à dimanche à l'Institut du Monde Arabe. Et puis rappelons à tous ceux et toutes celles qui se trouveraient en région toulousaine, qui peuvent se rendre aussi à d'autres grandes rencontres d'histoire qui viennent tout juste de naître, puisque c'est la première édition. Ça s'appelle l'Histoire à venir, et il y a là également un très beau programme où on parlera d'histoire mondiale, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou de bien d'autres sujets. Rendez-vous sur le site de l'Histoire à venir, sur lequel vous trouverez pour Toulouse tous les renseignements sur ce qui s'y passe. Merci donc, et on se retrouve tout à l'heure, parce que j'y serai aussi au rendez-vous de l'histoire du monde arabe.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Voilà qui arrive, les peines sardines.
J'ai un truc à 10h45.
Et oui, Anne-Lise Neff a un truc à 10h45 et donc elle doit partir, nous quitter. Mais vous, vous allez rester avec nous. Vous allez même arriver, Catherine de Copé, pour votre chronique qui correspond exactement à ce qui vient d'être dit.
La catégorie, ça me parle, oui.
Oui, la catégorie, ça vous parle puisque vous travaillez tous les mois dans la Fabrique de l'Histoire sur la façon dont on a construit la catégorie d'un autre. Là, c'était l'autre de l'islam ou du musulman. Et vous, vous avez choisi une autre catégorie, un terme très important et qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines, le terme d'insoumis, Catherine de Copé.
Alors aujourd'hui, les insoumis, comme vous le savez tous, ce sont les partisans du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, créée il y a un peu plus d'un an seulement. Et évidemment, si le choix du terme n'a pas été fait au hasard, il ne fait sans doute pas référence aux insoumis dont je vais vous parler aujourd'hui. Insoumis a souvent été utilisé par les historiens comme adjectif pour qualifier celui qui se rebelle contre un ordre établi, celui qui désobéit. En témoigne l'expression récurrente « soldat insoumis » ou « prisonnier insoumis » quand l'ordre en question était militaire ou guerrier. J'ai voulu m'intéresser aux périodes où d'adjectif, le terme devient substantif pour désigner un groupe en particulier. Et au début des années 50, une affaire a précisément mis en lumière des insoumis qu'on a depuis oubliés, ou presque. Le terme désignait alors une frange de la population des prêtres ouvriers au moment où leur engagement était remis en cause par l'Église.
Et pour mieux comprendre cette trajectoire, il faut repartir, Catherine, à la naissance de ce mouvement des prêtres ouvriers.
Il faut se resituer dans les années 40 où la déchristianisation de la société préoccupe l'Église et une partie de la classe politique. Ce sont plus précisément les milieux populaires et en particulier la classe ouvrière qui sont visés par cette inquiétude. Va naître alors un souci moral d'évangéliser une classe ouvrière majoritairement athée, loin des paroisses et objet de tous les fantasmes. En 1941, une mission de France est créée pour former des prêtres à ce nouvel apostolat à destination de la classe ouvrière. Et à ses débuts, ce phénomène missionnaire prend des formes très variées. Par exemple, la création de communautés emmenées par des clercs et des laïcs, en tout cas des formes hors de la paroisse.
Alors très vite, Catherine, ces expériences vont conduire à la nécessité pour les prêtres engagés, ces prêtres ouvriers, de se mettre eux-mêmes au travail, c'est cela ?
Oui, au contact de la classe ouvrière, les prêtres engagés de l'après Seconde Guerre mondiale découvrent sa diversité et sa culture de solidarité. Mais aussi la réalité de la lutte des classes, la pénibilité du travail, les rapports de domination et ce qui s'ensuit. Il faut dire que plusieurs milliers de prêtres français s'étaient retrouvés prisonniers et forcés au travail en Allemagne pendant la guerre, une expérience qui les a transformés et ramenés à certaines réalités. Et dans une France déchirée politiquement, la guerre a également écorné la valeur d'obéissance chère à l'Église et aux catholiques. Pour toutes ces raisons, il apparaît clairement à ces prêtres que leur mission n'a de sens que s'ils partagent vraiment et totalement la vie des ouvriers. Ce qu'on va alors appelés les prêtres ouvriers, ou PO, se font donc embaucher directement dans les usines et s'installent dans les cités ouvrières. Ce qui va les amener logiquement à participer aux grandes grèves de 1947, mais aussi pour certains à se syndiquer à la CGT et à y prendre des responsabilités. Au passage, ce n'est pas toujours allé de soi du côté syndical, on peut l'imaginer.
Mais j'imagine. Donc en 1949, la presse découvre les prêtres ouvriers dans un contexte où justement Rome est de moins en moins favorable à cette expérimentation, pourrait-on dire.
Oui, cette médiatisation un peu tapageuse renforce l'Église dans sa crainte d'un rapprochement entre ses prêtres et les communistes. Obsession de l'époque. Il faut rappeler qu'en juillet 1949, un décret du Saint-Office interdit toute collaboration entre catholiques et communistes. Et à ce problème très politique s'ajoute, pour le Vatican, une dimension religieuse. Est-ce que servir le Christ est compatible avec la condition ouvrière ? L'évolution de la mission des prêtres ouvriers, donc le fait qu'ils aillent directement à l'usine, va amener le Vatican à condamner à partir de l'été 53 ce qu'il considère comme une simple expérience. Après avoir tenté une médiation avec le pape Pie XII, les cardinaux français obtempèrent et interdisent en janvier 54 aux prêtres ouvriers français de travailler plus de 3 heures par jour et d'adhérer à toute organisation. Donc on le comprend, une façon de mettre fin aux missions de ces prêtres ouvriers.
Alors cette affaire qui a fait grand bruit à l'époque et ceux qui étaient jeunes à cette époque-là s'en souviennent, c'est l'acte de naissance de deux catégories qui sont consacrées désormais par l'usage, les soumis et les insoumis.
Sur la centaine de prêtres ouvriers actifs à ce moment-là, donc en 1954, 60 décident de rester à l'usine. Ces insoumis ne seront pas toujours compris sur le moment par ceux qui décident de renoncer. L'unité du groupe des prêtres ouvriers est totalement rompue. Notons qu'aucune adhésion au Parti communiste de la part de prêtres ouvriers n'a été relevée avant 1954, un peu comme si la condamnation de Rome avait conforté certains insoumis dans leur engagement pour le prolonger politiquement. Alors depuis, les recherches historiques ont montré que ceux qui s'étaient soumis, entre guillemets, n'avaient pas pour autant repris compris une activité ecclésiastique facile et normale et étaient au cas par cas retournés à l'usine avec l'accord tacite de leur hiérarchie. On comprend donc que la plupart des prêtres ouvriers pourraient être considérés comme des insoumis en choisissant l'usine, quitte à perdre pour certains la reconnaissance de leur sacerdoce. En 1965, la catégorie d'insoumis ne sera plus opérante, tout simplement parce que le Concile de Vatican II réautorise le travail des prêtres. Et pour conclure, à plusieurs dizaines d'années d'écart, on serait presque tenté de regarder à l'aune de cette histoire les phénomènes de dépolitisation ou de rejet de la politique observables dans notre société. Devant certaines fractures entre l'élite politique et la population, je me demande si on verra un jour naître un mouvement d'hommes politiques ouvriers ou approchants.
Merci beaucoup. Je rappelle donc Catherine de Copé que vous venez chaque mois pour nous parler de la fabrication d'un autre, d'une catégorie que l'on désigne d'une façon particulière. Et vous avez donc aujourd'hui, vous nous avez parlé de cette catégorie des insoumis en rappelant combien c'était lié à l'expérience des prêtres ouvriers. Merci beaucoup.
Merci.
Et au mois prochain. Et nous sommes, pour terminer cette émission, nous sommes avec Arlette Farge. Bonjour Arlette.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous au téléphone pour évoquer la mémoire d'un grand historien dont nous avons appris donc la disparition cette semaine et qui était un proche avec lequel vous avez travaillé pendant pas mal d'années. Cet historien s'appelait Pierre Laborie. Il était né en 1936. Il est décédé donc le 16 mai dernier. C'était un grand historien de l'opinion publique sous Vichy. Il avait publié en 1990 un livre très important qui s'appelait L'opinion française sous Vichy. Mais il avait travaillé beaucoup sur les questions de mémoire, d'histoire et de résistance. On va y venir avec vous. Et son dernier livre, nous l'avions reçu à cette occasion-là dans la Fabrique de l'Histoire, était publié chez Bayard sous le titre « Le chagrin et le venin ». La France sous l'occupation, mémoire et idées reçues. Nous mettrons sur le site internet de France Culture l'intégralité de cet entretien avec Pierre Laborie. Mais je vous propose, avant de vous parler, Arlette Farge, d'en écouter un extrait.
Ce que j'ai voulu faire, surtout, je dis franchement, je me suis servi, effectivement, de cette période de la Seconde Guerre mondiale pour tenter de mener une réflexion qui peut paraître très, très ambitieuse, mais je pense que c'était l'occasion, sur comment se construit aujourd'hui le rapport de notre société à son passé. Et où se construit-il? Et ce sont ces deux questions, très au-delà sûrement de mes possibilités, mais j'ai tenté de le faire, qui m'ont paru intéressantes, de tenter de découvrir à travers l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit là, et depuis les années en gros 1970, avec ce film auquel vous avez fait référence tout à l'heure, Le chagrin et la pitié, on voit en effet s'installer ce discours convenu, j'appelle Vulgate, et qui a surtout ce statut absolument considérable qui fait que les mots qu'il relate sont utilisés comme des évidences. Et le rôle d'un historien, comme je le rappelle dans l'avant-propos, c'est au contraire de s'interroger sur les évidences. Et si nous avons un jour un rôle à jouer, vous avez souvent posé cette question, il est là. C'est-à-dire, est-ce que, à travers le passé, à quoi sert l'histoire? Voilà. Ouais. Mais elle sert, entre autres, à cela. À revenir sur des évidences qui sont installées dans la tête des gens comme des choses sur lesquelles on ne revient jamais. Et moi, je pense qu'il faut revenir sur tout, y compris sur les pires des évidences. Tout à l'heure, vous avez dit que, que je voulais essayer de revenir sur le discours de certains de mes chers collègues, qui sont des amis pour la plupart. D'ailleurs, en fait, c'est pas tellement ça, parce que je crois que on a inventé en France ce moment-là. C'est un phénomène curieux sur lequel il faut encore réfléchir. Moi, je n'ai pas d'après tension tout réglée, une espèce de bouillie, hein, je crois qu'on peut dire le mot, même si je ne l'utilise pas dans le livre, de bouillie mémorio-médiatique, où à partir
des usages... Vous appelez ça la doxa de la France glauque.
Ben oui, c'est ça exactement, et je crois quand même que le rôle de la presse, mais encore une fois, tout le respect que je vous dois à tous, donc a été absolument considérable.
On prend notre part.
Mais je pense que ce n'est pas un problème ni de culpabilité, là encore, ni de responsabilité, c'est simplement le fait que par des effets d'entraînement, par des effets d'imitation, de reproduction, phénomène d'ailleurs que les gens qui travaillent sur la presse constatent souvent, il y a eu à ce moment-là une sorte d'emballement. Et c'est vrai que dans cet emballement, l'article de François Giroux, que je rappelle, a joué un rôle absolument fondamental. Et tout d'un coup, on est passé d'un film qui était une réflexion sur la mémoire, parce qu'en fait, Le chagrin et la pitié, c'est une réflexion sur la mémoire, sur les problèmes que pose le rapport au passé à travers la mémoire, à travers, bien sûr, son rôle tout à fait majeur, mais en même temps, ses bornes. Or, ce film, qui était un film sur la mémoire, est devenu une leçon d'histoire, posée comme quelque chose d'absolu.
Voilà, c'était donc un extrait de l'entretien que nous avait accordé en 2011 à l'occasion de la sortie du Chagrin et du Venin, l'historien Pierre Laborie, dont on a appris la disparition aujourd'hui, enfin cette semaine, et il évoquait cet article qui avait été écrit par François Giroux dans l'Express, où elle disait qu'en fait... Il fallait reconnaître à partir de l'exemple du chagrin et la pitié que la France, dans son immense majorité, a été pétainiste, c'est-à-dire veule, essentiellement préoccupée pendant 4 ans de manger, de tenailler par la frousse. C'était donc cela que critiquait en l'occurrence Pierre Laborie dans son travail, ce mélange entre mémoire et histoire. Et vous avez donc pendant 7 années, je crois, Arlette Farge travaille avec lui pour un séminaire commun que vous meniez à l'école des hautes études en sciences sociales autour de cette question d'un côté du témoignage et de l'autre côté de l'opinion publique.
Oui, je vous remercie Emmanuel de me laisser parler de Pierre Laborie qui était pour moi un très très grand ami, quelqu'un de très proche et j'ai un peu d'émotion ce matin. Mais vous avez dit, il a dit quelque chose qui est très très important que je viens d'entendre. C'est quelqu'un qui s'est en effet toujours interrogé sur les évidences et en effet nous avons vécu ensemble, je crois, une aventure intellectuelle très très marquante et innovante, étonnante pendant 7 ans. Je voudrais rappeler que c'est grâce à Nicole Leroux, c'est elle qui nous a fait nous rencontrer, Pierre et moi, et qui a eu cette idée absolument exceptionnelle d'inventer un séminaire à trois, à partir de 3 périodes qui n'ont rien à voir, la Grèce antique, le 18e et l'occupation, où elle nous demandait de partager des regards croisés, communs, des interrogations, et des thèmes communs sur des périodes différentes. Et malheureusement, Nicole est tombée malade très très vite et nous avons décidé, pour elle comme pour nous, de continuer l'aventure. Et c'est vrai que pendant 7 ans, nous avons mené un séminaire hebdomadaire à l'école des hautes études. Alors, ce que je voudrais dire vraiment, c'est que c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'aida déjà, il a aidé beaucoup de gens et d'étudiants. C'est quelqu'un qui m'aida à penser autrement l'histoire et au prix d'un travail acharné, vraiment un travail acharné. Le séminaire qu'on élaborait ensemble s'est installé autour de grands thèmes, vraiment. L'événement d'abord, ce qu'il appelait le tranchant de l'événement, et moi je trouvais ça très très passionnant. Et pour lui, l'événement, c'était pas un fait, justement. Il y avait quelque chose en amont, il y avait la chose qui se passait, et puis il y avait la réception de l'événement et les effets de la réception de l'événement. Et évidemment, c'était quelque chose de tout à fait nouveau de pouvoir travailler ainsi. Et ce qui l'a amené, évidemment, à contredire des présupposés de l'histoire traditionnelle qui, tout d'un coup, disait un événement, c'est ceci, et puis après, l'historiographie allait pas plus loin, en un sens. Et à partir de là, effectivement, il a travaillé, comme vous l'avez dit, Emmanuel, sur l'opinion publique, son grand livre, vraiment, qui a, je trouvais, moi, que j'ai beaucoup apprécié, bien sûr. Et il a, c'est ça, je trouve que c'est vraiment très, très étonnant, il a mis en place, non seulement, évidemment, une étude de la mémoire et de l'oubli, d'ailleurs, nous avions reçu à l'époque Paul Ricoeur, qu'il aimait beaucoup venir faire un séminaire chez nous. La mémoire, l'événement, l'oubli, le témoignage, effectivement, et puis les mémoires de l'événement. Et au fond, toujours la question qui revenait répétitive, parce que c'était un transmetteur extraordinaire, sur quelle base penser différemment les objets d'histoire. Et je parlais de l'événement, mais il aimait aussi beaucoup travailler sur, et ça pour moi c'était ça rentrait bien dans ce que j'aimais faire, travailler sur l'imaginaire de l'événement qui était pour lui-même un acteur de l'histoire. Et effectivement, c'est bien pour ça aussi que cet imaginaire de l'événement se transforme au cours du temps et que, bien sûr, il pouvait contredire ce qui était les faits véritables et les traces parce que d'un événement, le monde social et politique en fait quelque chose d'autre que ce que fut l'événement.
Et puis, il avait aussi une très grande modestie, pourrait-on dire, Pierre Laborie. Oui. Une modestie en particulier, on l'a entendu quand il dit, je ne sais pas si c'est à moi de parler de la façon dont une société construit le rapport à son passé. Et quand il disait, par exemple, que bien que tout près de nous, cette occupation et cette Seconde Guerre mondiale sur laquelle il travaillait, était, il fallait se rendre compte combien elle était étrange, l'immense étrangeté de ce passé. C'est-à-dire qu'on peut croire que l'on croit quelque chose, que l'on comprend quelque chose, mais il faut partir toujours du principe de cette étrangeté qui nous rend difficile de se mettre dans la tête de ceux et de celles qui vivaient à une époque donnée, Arlette Farge.
Oui, mais c'est ce qu'il a appelé la pensée double, qui était absolument passionnante, évidemment très opposée à l'idée que la France avait été passive et collaboratrice. Elle a travaillé sur les ambivalences et justement les attitudes mentales qui révélaient autant d'opposition aux événements que de résignation. Et moi, je me souviens de quelque chose dont je veux vraiment parler aujourd'hui, d'un séminaire qui, je crois, n'a pas été publié, qui est absolument merveilleux, sur le silence. Le silence, comment l'interpréter? Et pour lui, c'était, est-ce du consentement? Est-ce de l'effroi? Est-ce de l'indignation? Est-ce quelque chose qui veut dire qu'on est contre? Ou bien est-ce aussi du consentement et de l'effroi? La pensée double, le pensée double, comme il l'appelait, c'était vraiment extraordinaire. Je voudrais dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, oui. Je crois, je voudrais dire quelques mots sur l'homme. C'était quelqu'un, comme vous le dites, de très modeste, d'extraordinairement sensible, oui. Qui avait de l'humour aussi, qui était, je crois, déchiré, un homme déchiré, qui avait beaucoup de contradicteurs. Il dit que c'était ses amis. Oui, c'était ses amis. Un homme qui souffrit beaucoup, beaucoup de ses contradicteurs jusqu'à sa fin, puisque moi, je l'ai accompagné, enfin, je l'ai entendu jusqu'à la fin. Et je voulais juste terminer par un mot sur le séminaire. C'est un séminaire qui a été exceptionnel grâce à lui. Il a réuni, ça s'était jamais vu à l'école des études, 70 étudiants. On avait toutes les semaines 70 étudiants. Une semaine sur le 18e, une semaine sur l'occupation. Mmh. Avec une ferveur et une transmission, des questions. Et ça a marqué une génération de jeunes étudiants qui m'en parlent encore aujourd'hui. Parce qu'il avait aussi, pour ses étudiants, un esprit de formation absolument étonnant pour toujours montrer tout ce qu'était d'interroger ouais. Tout le temps les idées reçues, les évidences. C'était, et puis c'était un grand ami.
Merci beaucoup. Et je pense que du côté de Toulouse, on parlait tout à l'heure de ces manifestations qui s'appellent l'Histoire à venir, qui se déroulent tout le week-end. On va beaucoup parler de lui parce qu'on a oublié de dire effectivement qu'il était toulousain et qu'il a enseigné très longtemps. Voilà. Merci beaucoup Arlette Farge d'avoir témoigné à propos de la disparition de ce grand historien qui était Pierre Laborie. Puis notons aussi que le général André Bach, qui était un historien de 14-18, est décédé aussi cette semaine et qu'il avait dirigé le service historique des armées et ouvert en particulier des dossiers sur les fusillés de la Grande Guerre, et les historiens lui en sont très reconnaissants. Merci à toutes et merci à tous, et vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission sur le site internet de France Culture. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Pierrick Monsigny nous a accompagnés à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'histoire du textile.